Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce mercredi 4 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Iran, pourquoi la Chine et pas l'Europe? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, l'opération d'enrichissement à 60% a commencé en Iran. L'Iran proteste contre les actions illégales de l'Union européenne. Et puis, une installation affiliée à l'agence d'espionnage israélienne du Mossad a été attaquée dans le nord de l'Irak. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Behrouz Kamalvandi, se référant à la lettre de l'Iran à l'adresse de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pour commencer un enrichissement à 60% conformément à un décret émis par le président Hassan Rouhani, a déclaré « Les préparatifs de cette action commenceront mardi soir au complexe d'enrichissement de Shahid Ahmadi Roshan à Natanz ». Behrouz Kamalvandi a déclaré le mardi 13 avril à propos du début de l'enrichissement à 60%, je cite, « par ordre du président, l'Organisation nationale de l'énergie atomique a été chargée de lancer une ligne de production d'uranium à 60% dans le montant requis dans le cadre de l'article 1 de la loi sur l'action stratégique de l'Iran pour la levée des sanctions et protéger les intérêts du peuple iranien, approuvée par le Parlement iranien ». L'enrichissement à 60% était une réponse aux conspirations sionistes. La mise en service de centrifugeuses IR-6 et l'enrichissement d'uranium à 60% était une réponse aux conspirations. Si les sionistes conspirent contre notre nation, nous répondrons, ce n'était que le premier pas, a déclaré le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani. Hassan Rouhani a déclaré mercredi lors d'une réunion du cabinet, je cite, « Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous allons activer les centrifugeuses IR-6 à Natanz ou augmenter l'enrichissement à 60%. C'est la réponse aux conspirations. Vous ne pouvez pas conspirer contre la nation iranienne et commettre des crimes à Natanz. Nous vous coupons la main lorsque vous commettez un crime. Nous avons frappé vos deux mains avec l'installation des centrifugeuses IR-6 et avec l'enrichissement à 60%, a-t-il dit. » Les États-Unis réitérant sur le fait qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'incident survenu récemment sur le site nucléaire de Natanz ont indiqué qu'ils restent attachés aux négociations nucléaires avec l'Iran et se concentrent sur les pourparlers de Vienne. L'attaché de presse du président Joe Biden, Jen Psaki, a déclaré que l'administration pensait que l'approche diplomatique était la seule voie à suivre et qu'une discussion, même indirecte, était la meilleure façon de parvenir à une résolution. Pendant ce temps, la France, en réponse à l'enrichissement à 60% par l'Iran, a déclaré qu'elle préparait une réponse à l'annonce au Téhéran. L'Élysée a ajouté que la décision iranienne était, je cite, un développement grave, nécessitant une réponse coordonnée des pays impliqués dans les négociations sur le dossier nucléaire, en précisant que cette coordination était en cours. Sachez également que l'Iran proteste contre les actions illégales, je cite, de l'Union européenne. L'ambassadeur du Portugal en Iran, dont le pays assume la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, a été convoqué ce mardi par le ministère iranien des Affaires étrangères, qui lui a fait part de vives protestations de la République islamique d'Iran suite à l'action illégale de l'Union européenne concernant les récentes sanctions annoncées au nom des droits de l'homme contre un nombre d'autorités et d'institutions de la République islamique d'Iran. Le directeur général du ministère iranien des Affaires étrangères pour l'Europe occidentale a condamné cette décision politisée et sélective de l'Union européenne annoncée au nom des prétendus soucis des droits de l'homme. Comme nous l'avons annoncé en réponse, nous suspendrons les négociations globales avec l'Union européenne et les coopérations qui en résultent, y compris dans les domaines du terrorisme, de la drogue et des réfugiés, a ajouté le diplomate. Il a également été souligné que la question des sanctions réciproques était à l'étude. L'ambassadeur portugais s'est engagé à transmettre la vive protestation de l'Iran à Bruxelles. Les médias d'Irak ont déclaré qu'une installation affiliée à l'agence d'espionnage israélienne du Mossad a été attaquée dans le nord du pays. Une source de sécurité a déclaré qu'un certain nombre de forces israéliennes avaient été tuées dans l'attaque. L'incident survient quelques heures après l'attaque d'un navire israélien dans le port émirati, causant des dégâts mais pas de victimes. Le navire battant pavillon des Bahamas appartient à une compagnie israélienne et était chargé de wagons. Les médias israéliens disent que l'attaque a probablement été menée avec un missile ou un drone. Le quotidien israélien Jerusalem Post affirme que l'incident survient deux jours après une attaque de sabotage contre l'installation nucléaire iranienne de Natanz. Selon le journal, l'Iran avait juré de venger l'acte de sabotage sur son site nucléaire. La 12e chaîne israélienne a également cité des responsables du régime anonyme accusant l'Iran de l'attaque du navire. Enfin, le président américain Joe Biden retirerait toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 11 septembre de cette année. Le retrait devrait se fonder sur certaines garanties de sécurité et des droits de l'homme. Le secrétaire d'État américain et le secrétaire à la Défense devraient informer les alliés de l'OTAN de cette décision mercredi. La décision US, si elle était confirmée, manquerait à la date limite du 1er mai pour le retrait convenu avec le groupe militant taliban l'année dernière. Les talibans, quant à eux, disent qu'ils n'assisteront pas à un sommet sur l'avenir de l'Afghanistan qui doit se tenir en Turquie plus tard, ce mois-ci, jusqu'à ce que toutes les forces étrangères quittent le pays. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Iran. Pourquoi la Chine et pas l'Europe? Accord sino-iranien, l'Iran compte en faire une plateforme pour promouvoir l'économie de la résistance. Si le pacte de coopération stratégique Iran-Chine réussit à aider l'économie iranienne à se sauver des pressions causées par les sanctions américaines, le monde entier apprendra comment ne pas céder à l'arrogance des États-Unis. C'est ce qui ressort d'une majeure partie des analyses consacrées à l'accord Iran-Chine. Mais il y a bien plus. En effet, en choisissant de s'allier avec Pékin, l'Iran cherche à promouvoir une économie de la résistance qui l'a aidé à mettre au pas la politique de la pression maximale US, à défier le régime des sanctions US, voire à le rendre totalement stérile et à en faire un tremplin pour affaiblir le dollar. Amir Saya, économiste iranien et membre du Centre de recherche du Parlement de la République islamique d'Iran, examine dans un article publié le mardi 13 avril par l'agence de presse Masher News l'accord de coopération stratégique de 25 ans que l'Iran et la Chine viennent de finaliser. Là, quatre points sont à retirer. Premièrement, la Chine s'est attribuée le premier rang sur la liste des puissances économiques du monde, quant à plusieurs indices, dont la parité de pouvoir d'achat, PPA, le volume d'exportation, l'excédent commercial, etc. Dans le même temps, la Chine est l'unique puissance économique du monde qui est aussi bien capable que motivée pour neutraliser les sanctions économiques des États-Unis. Bien que l'économie iranienne ait déjà survécu les sanctions paralysantes, elle a pourtant besoin d'un marché étranger et d'un immense investissement pour pouvoir regagner sa force. La Chine est en mesure de subvenir à ce besoin. D'autre part, entretenir une coopération pétrolière avec l'Iran dans une région aussi délicate qu'instable, dont les pays obéissent aveuglément aux États-Unis, paraît efficace à Pékin. Bref, une coopération sino-iranienne est un jeu gagnant-gagnant. Deuxièmement, dès que l'accord de coopération de 25 ans entre en vigueur, les sanctions des États-Unis contre l'Iran perdront leur efficacité et l'économie iranienne sortira de l'isolement. D'où les tentatives des États-Unis visant à accéder au contenu du document original afin de bloquer les voies par lesquelles l'Iran pourrait sortir de l'ère des sanctions. S'ils échouent, leur plus important moyen d'hégémonie perdra son efficacité. Et d'ajouter, mais il y a bien plus. En signant un pacte avec la Chine, l'Iran cherche surtout à étendre à l'échelle internationale sa théorie dite « économie de la résistance ». Une économie qui l'a largement aidé à amortir la pression maximale US, à lui faire échec et en plus à aider les pays alliés comme le Venezuela. C'est à ce dernier aspect, très probablement, auquel le ministre chinois des Affaires étrangères en visite à Téhéran faisait référence lorsqu'il a déclaré que l'accord signé avec l'Iran bouleverserait totalement le paysage géopolitique dominant dans la région de l'Asie occidentale, qui a si longtemps été soumise à l'hégémonie des États-Unis. Et comment ? La Chine compte tout simplement porter sa contribution à la promotion de l'idée de l'économie de la résistance, bien qu'elle ait cultivé elle-même une forme très particulière de libéralisme. Pour les deux parties, il ne s'agit pas seulement de signer un pacte de commerce et d'investissement, ni d'une simple entrée d'entre alliés. La résistance réside précisément dans la manière dont il essaie de s'entraider. Il s'agit d'un mode de développement économique. Il représente la notion selon laquelle toute ressource génératrice de rente, monopole bancaire, foncier, ressources naturelles et infrastructures naturelles devrait appartenir au domaine public afin de répondre aux besoins fondamentaux de tous gratuitement. L'alternative consiste simplement à privatiser ces biens publics, comme en Occident, où ils sont fournis à un coût maximal financiarisé, le taux d'intérêt, les dividendes, les frais de gestion et les manipulations d'entreprises pour le gain financier. À un certain niveau, cette formule constitue donc un défi stratégique pour l'écosystème occidental. Dans un coin, les économies stagnantes de l'Europe et de l'Union européenne, hyper-financiarisées et alimentées par la dette, dans lesquelles l'orientation stratégique et les gagnants et les perdants économiques sont déterminés par les grands oligarques et dans lesquelles les 60% luttent et les 0,1% prospèrent. Et dans le coin le plus éloigné, une économie très mixte dans laquelle le parti fixe un cap stratégique pour les entreprises d'État, tandis que d'autres sont encouragés à innover et à faire preuve d'esprit d'entreprise dans le moule d'une économie dirigée par l'État, quoiqu'avec des caractéristiques taoïstes et confucéennes. Socialisme contre capitalisme ? Non. il y a longtemps que les États-Unis ne sont plus une économie capitaliste. C'est à peine si c'est une économie de marché aujourd'hui. Ils sont devenus de plus en plus une économie rentière depuis qu'ils ont quitté l'étalon or en 1971. Cette sortie forcée des États-Unis de la fenêtre de l'or leur a permis, grâce à la demande mondiale de titres de créance américains, obligations du Trésor, de se financer gratuitement à partir de l'excédent économique mondial. Le consensus de Washington garantissait en outre que les afflux de dollars à Wall Street en provenance du monde entier ne seraient jamais soumis à des contrôles de capitaux et que les États ne pourraient pas créer leur propre monnaie mais devraient emprunter en dollars à la Banque mondiale et au FMI. Et cela signifiait essentiellement emprunter au Pentagone et au département d'État en dollars américains, qui étaient en fin de compte les exécuteurs du système. L'évolution du système financier américain vers une entité qui privilégie les actifs réels, tels que les hypothèques et les biens immobiliers qui offrent une certaine rente, plutôt que d'investir directement dans des entreprises spéculatives, signifie également que les jubilés de la dette sont interdits. Les Grecs peuvent raconter l'expérience de ce que cela implique dans les moindres détails. Le fait est que sur le plan économique, la sphère hyper-financiarisée des États-Unis se rétrécit rapidement, alors que la Chine, la Russie et une grande partie du monde se retournent vers le commerce de leurs propres devises et n'achètent pas de bons du trésor américain. Dans une guerre de système économique, les États-Unis se retrouvent donc sur la défensive. Et c'est là le véritable sens de l'économie de la résistance. Iran-Chine sauront en faire une alternative.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait nous attarder sur l'échec, la défaite de la stratégie américaine tant en Irak qu'en Syrie. Vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient lancer cette guerre contre l'Irak, ils prétendaient que l'objectif en est d'apporter la sécurité pour le peuple irakien. Mais dans l'état actuel des choses, c'est la présence militaire américaine en Irak qui est devenue en fait la principale source d'insécurité et d'instabilité dans le pays. Et le peuple irakien exige fermement le départ des troupes américaines d'Irak. Il y a eu une loi qui a été votée par le Parlement irakien qui exige en fait le retrait, le départ des forces américaines d'Irak. Et ces derniers temps, en fait, les attaques contre des convois militaires américains en Irak se sont multipliées, ce qui est, si vous voulez, un signe évident de ce mécontentement que du peuple irakien de la présence militaire américaine sur le territoire irakien. Même chose pour la Syrie. Cette présence militaire américaine en territoire syrien est considérée comme illégale, illégitime, tant au niveau, si vous voulez, des dirigeants du pays qu'au niveau de la population du pays. Les Syriens, si vous voulez, sont contre de cette présence militaire américaine en territoire, si vous voulez, syrien, une présence qui est considérée comme je viens de vous le dire, en fait, comme étant illégale et contraire au droit international parce que cette présence s'effectue sans l'aval du gouvernement syrien. On va vous en parler avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. bonjour et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volley, c'est une analyste de Franco, de Syrienne, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à Monsieur Bevelé et à vous-même, bien sûr.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Madame Midani, je viens de lancer le sujet désormais, en fait, de cette politique, cette approche de syrienne et irakienne de Washington est un constat de d'échec. Les événements qui se produisent, en fait, sur le terrain, tant en Irak qu'en Syrie, au niveau des dirigeants, des hommes politiques, et surtout au niveau de la population, des populations de syriennes et irakiennes, le démontre, en fait, d'une manière en fait claire et nette. Madame Midani, non seulement il y a ceux en Irak et en Syrie, ils sont nombreux d'ailleurs, qui disent que voilà, cette politique est désormais un constat d'échec. Des voix s'élèvent désormais, même à l'intérieur des États-Unis, qui disent que voilà, qu'est-ce que nous avons fait, si vous voulez, en Irak, en Syrie, qu'est-ce que cela a rapporté, si vous voulez, aux des Américains, cette présence militaire américaine en Irak, en Syrie, Madame Midani.
En fait, ces agressions militaires répétées des États-Unis contre les peuples de la région n'ont provoqué qu'une profonde haine des États-Unis par les peuples, ajouté au fait que les crimes qui sont commis, ils sont d'une telle violence et d'une telle arrogance que, en fait, maintenant, ça fait vraiment l'unanimité contre eux. Alors, effectivement, après avoir... Alors, je voudrais quand même rappeler le vil assassinat du général Qassem Soleimani et du grand scientifique Fakhri Zadeh et aussi l'ensemble des agressions contre la population syrienne, contre la population irakienne. La collaboration des Américains, des forces américaines avec les terroristes de Daesh, et à chaque fois que Daesh est défait, il les renforce et il leur envoie des renforts en des munitions, des armes, même ils continuent à recruter. Donc il les protège. Il est clair que maintenant c'est au vu et au su du monde, il les protège. Au vu et au su du monde aujourd'hui aussi, il pille le pétrole syrien, il pille le grain syrien, en fait, que ce soit du blé, des céréales, même le coton. Ils sont en train de commettre des exactions contre la population par l'intermédiaire de FDS, la Qassad, qu'ils soutiennent et qu'ils renforcent aussi. Ils sont en train de pousser la population de Hasakeh à l'exil. Ils ont commis plein d'exactions aussi contre la population irakienne. C'est fait aujourd'hui, la résistance irakienne remporte de très grandes victoires. Et ils ont quand même essayé de tuer le responsable. Ils ont tué le responsable Abu Mahdi al-Mohandes aussi, qui était aux côtés de général Qassem Soleimani, le responsable de la résistance. Tout ceci n'a fait que attiser non seulement la haine, mais aussi la détermination de la population, du peuple syrien, du peuple irakien et de l'ensemble des peuples de la région à vouloir mettre les Américains dehors, d'autant plus que leur collaboration avec les sionistes, l'occupant israélien, elle est évidente, et donc elle est pas seulement évidente, ils n'arrêtent pas de l'affirmer à chaque fois, et c'est un état d'occupation, c'est un état qui est étranger à la région. Il ne sera jamais intégré, en fait, cet état d'occupation israélien, malgré les pressions de Trump pour l'intégrer en faisant des relations avec Bahreïn, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite. C'est pas avec l'État, mais c'est avec juste quelques personnalités du pouvoir de ces endroits, enfin de ces États, et qui sont quand même aussi complètement désapprouvés par les populations, par les peuples. Aujourd'hui, je peux dire aussi, en Syrie, la collaboration américaine et avec Erdogan, qui est en train aussi d'occuper et de piller les richesses de la Syrie, qui est en train même de piller les richesses archéologiques, qui est en train de turquiser les différents villages et turquiser, c'est-à-dire ils imposent la langue turque pour travailler, ils imposent la langue turque dans les écoles, ils imposent la monnaie turque, ils imposent les radios turques, etc. Tout ceci ne fait que augmenter la colère du peuple syrien, ajouter aussi à l'embargo étouffant, au blocus étouffant qui aujourd'hui affame le peuple syrien et le fait mourir de froid. Tout ceci fait monter effectivement non seulement la tension, fait monter la haine contre l'Américain, contre l'occupant turc dans la région, et donc par conséquent la résistance populaire augmente avec aussi, et se range du côté de l'armée syrienne pour défendre le pays et pour pousser tous ces occupants non seulement illégitimes qui agressent la souveraineté de la Syrie, qui agressent le peuple syrien, qui agressent les richesses de la Syrie et qui la pillent dehors. Donc en fait, aujourd'hui, le maître mot, c'est Yanki Goro.
Merci. J'ai beaucoup de maîtres de voler. Madame Midani estime que l'assassinat du commandant de la résistance, le général martyr Soleimani, et d'Abou Mahdi Mouandès, chef adjoint de Hashd al-Shaabi, des unités de la mobilisation populaire d'Irak, et également les crimes commis par les troupes américaines contre, si vous voulez, les Irakiens et les Syriens, n'ont eu d'autre résultat que d'attiser la résistance anti-occupation, d'attiser la haine, comme pour reprendre l'expression de Mme Midani, la haine contre les États-Unis, contre les occupants américains, la haine des Irakiens et des Syriens contre les occupants américains. Est-ce que vous partagez cette analyse, maître de Volley?
Oui, absolument. D'autant plus que, comme vous le savez, même si la perte de ces deux commandants a été ressentie de manière traumatisante, il faut savoir que structurellement, et à l'instar de ce qui pouvait avoir lieu à l'époque de l'Empire perse, quand un commandant tombe, il y en a 10 000 derrière qui se lèvent. C'est pour vous dire que c'est l'esprit de la résistance qui prédomine dans la région, et les gens sont maintenant mobilisés plus que jamais à expulser les Américains et leurs affiliés de la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, ils sont dans une fuite en avant, que d'ailleurs l'ancien envoyé spécial Jim Jeffrey a lui-même, si je peux dire, dévoilé ces derniers jours, puisqu'il a lui-même déclaré que le chef de Al-Nosra, le Al-Jolani, devait faire l'objet d'une réhabilitation et qu'en fait ils avaient collaboré avec Al-Qaïda depuis des années. Donc maintenant le secret polichinelle est complètement exposé. Pour ce qui concerne la présence américaine illégale dans le nord-est de la Syrie, cela correspond à cette doctrine Jeffrey qui consiste à, entre autres choses, créer un état de bourbier pour la Russie, maintenir ce qui s'apparente à un siège médiéval sur la Syrie, et financer les opérations de déstabilisation au travers de la réactivation des cellules terroristes en pillant effectivement le pétrole qui, dont on sait, n'est pas en soi quelque chose que les Américains font un profit, mais qui leur permet de financer leurs opérations au travers d'un trafic qui passe par le Kurdistan irakien et qui finit en Turquie. Donc, tout ça sous couvert, bien sûr, d'une société américaine Écran, qui est elle-même, qui a été montée par des anciens mercenaires des forces spéciales américaines et des affiliés de l'ancienne administration Bush. Cela, malheureusement pour eux, ne va pas stratégiquement mener où que ce soit, puisque plus que jamais maintenant dans le Al Jazeera syrien, les tribus se mobilisent, sont en train de se former au mode de résistance, de façon à créer une espèce de guerre asymétrique, de harcèlement, puisque le droit international, de toute façon, leur donne le droit de défendre leur pays et de libérer leur zone. Et dans ce contexte-là, il est actuellement mis en place des protocoles, non seulement au niveau des tribus, mais aussi au niveau des forces associées, alliées à l'armée syrienne, pour probablement commencer à pilonner maintenant les Américains, puisque de toute façon, ce pillage systématique, c'est pratiquement quotidien maintenant. On a des dizaines de camions américains qui quittent, remplis de pétrole, remplis de blé. C'est une situation inacceptable, intenable, et qui appelle une résistance renforcée. Pour ce qui est de la situation en Irak, vous l'avez souligné en ouverture, le Parlement irakien, suite d'ailleurs à l'assassinat de Soleimani et Al-Mohandes, a passé cette loi demandant le départ le plus rapide possible, immédiat dans l'absolu, des Américains. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau du poste de Premier ministre en Irak, et il est à se demander si l'occupant du bureau du Premier ministre actuel n'est pas en décalage total avec la volonté populaire de voir les Américains partir. Les Américains, eux, le sentent bien, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi on a eu cet accord en Jordanie récemment, signé le 16 mars dernier, alors même que le Parlement jordanien n'a pas été consulté, qui consisterait pour les Américains à pouvoir disposer de toutes les manœuvres possibles au niveau de l'accumulation de leurs forces dans ce pays, alors même que, encore une fois, les intérêts du peuple jordanien ne sont pas du tout servis par cette situation. Donc, les Américains essayent de changer, d'ajuster, si je puis dire, leur positionnement tactique, mais tous les peuples de la région maintenant chantent d'une seule voix, qui est celle d'expulser les Américains et leurs alliés, et de mettre un terme, une fois pour toutes, à toute opération de déstabilisation. Et l'OTAN travaille en la faveur de la résistance et de ses alliés.
Madame Emidani, de maître de volée, d'insister sur ce point que voilà, tous les peuples de la région exigent désormais, si vous voulez, le départ des forces américaines, exigent la fin de la présence militaire américaine dans la région. Autrement dit, maître de volée, en fait, insiste sur cette prise de conscience au niveau des populations. Vous vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient agresser l'Irak, ils disaient que voilà, ils imaginaient qu'ils seraient accueillis, si vous voulez, à Bagdad, capitale irakienne, comme les sauveurs, comme les libérateurs. Même chose pour la Syrie également, mais maître de volée, en fait, souligne ce point qui est en fait celui de cette prise de conscience, si vous voulez, au niveau des populations. Madame Midani, ça aussi, c'est un élément important, n'est-ce pas?
C'est un élément crucial, effectivement. La résistance populaire grandit et il y a de plus en plus d'opérations contre les soldats américains et contre ceux qui collaborent avec les Américains, qui sont les Qassad, en fait. Il y a tous les jours des attentats contre eux. Il y a tous les jours des attaques, mais aussi parce qu'ils ont attaqué systématiquement la population et dans sa chair et dans ses biens et dans ses donc les gens commencent à résister. Ça, c'est un point qui est très important. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que la population le peuple syrien, le peuple irakien sont des peuples, comme le peuple libanais, le peuple palestinien et yéménite, sont des peuples qui ne plient pas et qui ne déclarent pas forfait, même face aux agresseurs les plus horribles. Et en fait, les Américains sont effectivement des agresseurs horribles, hein, de la même manière que les Israéliens. Mais donc, ils ne baissent pas les bras. Et au contraire, maintenant, ils doublent de détermination. Et ils doublent aussi de courage. Et en fait, ils sont de plus en plus victorieux et de plus en plus... Ils opèrent de plus en plus des actions victorieuses contre les, pas seulement les Américains d'ailleurs, et tous leurs alliés dans la région, qui sont aussi, je voudrais citer aussi les États de l'OTAN, parce qu'il y a aussi une présence française, une présence allemande, une présence anglaise dans la région. Donc aussi, ils sont sous le couvert et sous le vocable les alliés américains ou la coalition dirigée par les Américains. Donc en fait, tous ceux-là sont des occupants, sont des colonialistes anciens ou nouveaux, et ils ont été toujours, ils sont toujours en train de convoiter les richesses des pays autres que les leurs, parce que pour les piller. Et donc ça, c'est la prise de conscience du peuple syrien et irakien, en fait, après ces 10 années de guerre, voire pour l'Irak, ces 30 années de guerre, ils sont déterminés à mettre tous les Américains dehors. Je voudrais dire aussi que ça a été une grande décision de l'ensemble des pays du front de la résistance, la bataille de cette année vise à mettre effectivement l'ensemble des forces américaines hors de la région de l'ouest de l'Asie. Donc de toute cette région, les Américains et leurs alliés doivent être mis dehors, leurs alliés occidentaux, agresseurs, etc. Donc ça, c'est effectivement, nous continuons à résister, nous continuons à nous battre hein, sur tous les plans, mais aussi bien sur le plan militaire, mais aussi beaucoup sur le plan politique. Il faut aussi savoir que les Américains sont très isolés mondialement aujourd'hui, parce que ils sont en train de...
Merci.
De partout, ils sont haïs. Ça, c'est aussi un point très important, sachant qu'on a aussi des alliés importants, comme l'Iran, comme la Chine, comme l'Inde, la Russie, et bien sûr, la Russie agit avec nous aussi en Syrie contre tout ce qui est illégitime et contre
Merci
tout
beaucoup.
Ce qui est illégal.
Merci beaucoup, Maître de Volley. Une dernière question. Nous avons 2-3 minutes devant nous. Et selon Mme Emidani, c'est en fait la présence militaire de l'OTAN dans la région qui est remise en cause. En fait, l'exigence est celle de réclamer le départ non seulement des Américains, mais également de l'OTAN de la région, Maître de Volley.
D'autant plus que l'OTAN n'aurait normalement jamais dû persister après la chute du mur de Berlin. La raison d'être de l'organisation militaire nord-atlantique étant à l'époque justifiée pour protéger l'Europe occidentale des chars soviétiques. Donc cette organisation aurait dû disparaître en même temps que, et à la limite, le 25 décembre 1991, lorsque... le secrétaire général Gorbatchev avait prononcé la dissolution de l'Empire soviétique. Or, il n'en a rien été. Dès 1992, il y a eu un white paper qui a été publié, qui a laissé ouvert la mission otanesque de manière diffuse et floue, de façon à pouvoir ensuite l'utiliser comme un instrument pour s'ingérer dans les régions du monde, ici et là, au gré des intérêts occidentaux, bien compris. Nous arrivons maintenant à une situation terminale où les États-Unis utilisent l'OTAN et donc, ce faisant, entraînent les membres entiers de l'organisation dans des missions complètement farfelues et qui ne répondent à rien aux intérêts des peuples de l'Occident, avec le risque, malheureusement, d'une escalade, puisque récemment, l'OTAN vient d'annoncer que le simple fait d'une attaque cybernétique pourrait constituer une invocation, un motif nécessaire pour l'invocation du fameux article 5, qui permet à un membre de l'Alliance de pouvoir compter sur tous les autres.
Merci.
Mais cette opération est très, très dangereuse et on le voit d'ailleurs en ce moment aussi en mer Noire et en Ukraine orientale.
Merci infiniment, Maître Arnaud Devoli, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Le pacte Iran-Chine change la donne. La déclaration conjointe Iran-Chine du 27 mars a fait des vagues dans les médias internationaux et parmi les analystes régionaux d'Israël à l'Inde. Israël s'inquiète de la coopération en matière de sécurité qui va s'instaurer entre la Chine et l'Iran. Les Indiens s'inquiètent du sort de leur projet de port de Chabahar dans l'est de l'Iran, qui fait partie intégrante de leur connectivité régionale. Le diable se cache dans les détails. Et le fait est que le document final, négocié par Pékin et Téhéran, reste toujours sous le manteau. Mais que risquent les États-Unis dans cette histoire? Le plus gros risque est d'ordre économique. Le pacte Iran-Chine s'inscrit profondément dans une nouvelle matrice que Pékin espère créer avec les États arabes du Golfe Persique et l'Iran. Le pacte fait partie d'un nouveau récit sur la sécurité et la stabilité régionale. On ne sait rien de la nature du mécanisme de paiement de ces transactions économiques massives, se chiffrant en centaines de milliards de dollars que le pacte Chine-Iran envisage. La Chine ne peut être à l'aise avec le risque que représente l'utilisation du dollar américain comme monnaie pour de telles transactions. En effet, les experts chinois ont noté ces derniers temps que Pékin se rend compte du risque énorme d'une dépendance excessive à l'égard du dollar américain et du système de paiement contrôlé par l'Occident depuis la crise financière de 2008 et que les dernières mesures d'assouplissement quantitatif massif prises par les États-Unis pour relancer leur propre économie renforcent également cette préoccupation. Par ailleurs, un expert chinois de premier plan, Deng Dengxin, directeur de l'Institut des finances et des valeurs mobilières de l'Université des sciences et technologies de Wuhan, a récemment déclaré au journal Global Times: Washington a abusé de SWIFT pour sanctionner arbitrairement n'importe quel pays à sa guise, ce qui a suscité le mécontentement du monde entier. Si la Chine et la Russie pouvaient travailler ensemble pour contester l'hégémonie du dollar, une longue liste de pays répondrait à l'appel et rejoindrait le nouveau système. Le système de paiement étant lié au système commercial, donc suggère que le nouveau système de paiement utilise le yuan comme monnaie de compensation. Dans un premier temps, le système pourrait pousser un essai dans les pays d'Asie centrale et les pays et régions situés le long des routes de l'initiative Ceinture et Route. À mesure que son influence grandit, le système est prêt à attirer d'autres pays d'Europe et de l'ANAS, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a déclaré donc. Des rapports ont été publiés ces derniers mois faisant état de discussions sur un mécanisme de paiement en devises étrangères entre la Chine et l'Iran. Il reste à voir jusqu'où les États-Unis peuvent supporter un tel affront. La Chine ne cherche pas la confrontation avec les États-Unis, du moins pas encore. Pour l'Iran aussi, l'exportation de pétrole et de gaz, un atout stratégique avec un paiement en monnaie locale, nécessite un acte de foi. Ces dernières années, la Chine a également exhorté l'Arabie saoudite à sortir de l'orbite du dollar pour le commerce du pétrole. Cela dit, la Chine teste les eaux en Asie occidentale. En janvier dernier, selon certains rapports, l'Institut de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et la Banque centrale des Émirats arabes unis ont rejoint le pont dit MCBDC, un projet de paiement transfrontalier visant à faciliter les transferts de fonds, le règlement du commerce international et les transactions sur les marchés de capitaux dans leur propre juridiction. Il ne fait aucun doute que le yuan numérique, baptisé en Chine monnaie numérique, paiement électronique, pourrait également remettre en question la suprématie du dollar américain. À l'heure actuelle, le système chinois de paiement transfrontalier SIPS est à la fois partenaire et concurrent de SWIFT dans un contexte de tensions sino-américaines croissantes. Une plus grande utilisation du SIPS au lieu du système SWIFT, basé en Belgique, réduirait l'exposition des données de paiement mondiaux de la Chine aux États-Unis. Certains analystes américains ont critiqué cette mesure, estimant qu'elle faisait progresser l'autoritarisme numérique de la Chine à l'échelle nationale et mondiale. Avec l'ascension fulgurante de la Chine sur la scène mondiale, Pékin espère depuis longtemps que sa monnaie physique, le renminbi ou yuan, profitera de son succès économique pour s'éloigner du système financier dominé par le dollar. La Chine évolue progressivement vers une position à la fois difficile et opportuniste. L'initiative Ceinture et Route de la Chine est un point d'entrée idéal pour l'internationalisation du yuan numérique. La Chine pourrait demander aux pays participants à cette initiative de commencer à accepter le yuan numérique, d'effectuer des paiements de prêts et de payer pour installer des infrastructures telles que des terminaux de points de vente et de réduire les frais de transaction. Selon l'administration nationale chinoise des changes, il a été décidé de coopérer activement avec la stratégie nationale de développement de l'initiative Ceinture et Route. Outre le fait qu'il s'agit d'un système de paiement moins cher et plus rapide, il crée également un pare-feu contre les sanctions américaines. Dans un scénario hypothétique, l'Iran peut construire un système de monnaie numérique compatible de sorte que le commerce et les investissements, les transferts transfrontaliers, le règlement du commerce international et les opérations de change entre les deux pays ne puissent plus être suivis par les États-Unis. Comment Washington pourrait-il accepter une telle défiance stratégique à l'heure où les États-Unis sont de retour, selon l'administration de Joe Biden? Le département d'État américain a promis d'imposer des coûts aux entreprises chinoises qui aident l'Iran. Dans ces conditions, il est tout à fait convenable qu'il n'y ait pas de calendrier pour un lancement officiel du pacte Chine-Iran. Étant des États civilisations, l'Iran et la Chine auraient leur propre concept du temps et de l'espace.
Mm-hmm.